j'écoute votre émission depuis des années. J'ai complètement changé ma façon de cuisiner depuis que je vous écoute.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
J'aime manger, je suis gourmand, moi. Je suis pas gourmet, mais je suis gourmand.
Attendez, je vais vous resservir.
Laurent Mariotte.
Ah, ça fait du bien de vous retrouver. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Du marché à la cuisine, en passant par les arrière-cuisines de notre alimentation, vous le savez, c'est ici que ça se passe. C'est l'automne depuis une semaine. Courges, champignons, noix, choux, voilà un échantillon des produits de saison. On va entendre comment nos chefs les cuisinent, ces produits. Comment cuisinent-ils l'automne? C'est notre dossier du jour. Mes bons vivants sont là. C'est la saison du raisin, alors forcément qu'elle aime l'automne. Une grappe de muscat à portée de main. C'est comme ça qu'elle écrit ses articles pour les pages 20 du Monde. C'est Ophélie Neyman. Bonjour Ophélie.
Bonjour Laurent, et c'est vrai, c'est ma saison préférée.
Oui, je vous vois bien allongé comme les Romains et les Romaines.
Absolument, j'écris comme ça.
Il n'a pas peur de se prendre des châtaignes et d'appuyer sur le champignon quand il donne son avis. Il partage ses bonnes adresses dans le Figaro et dans le Figaroscope. C'est Emmanuel Rubin à table. Bonjour Emmanuel.
Oui, et moi je suis content parce que c'est bientôt l'hiver. Winter is coming, ma saison. Préférée.
Laissez passer laissez passer l'automne quand même. À chaque saison, la météo s'invite à table. Eh bien, nous avons invité la présentatrice la plus populaire de France à cette table ce midi. Evelyne Delia vient partager un joli poisson du jour avec nous. Alors, petit rituel, posez-vous la question en écoutant l'émission à la maison ou en voiture. Quel est votre goût de la semaine, ma chère Ophélie, je vous la pose.
Eh bien, moi, je voudrais rendre hommage à un ami, plus exactement le chéri de ma meilleure amie, qui a voulu nous faire très 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 plaisir quand il nous a invités à déjeuner. Il a fait un pulled pork, un effiloché de porc.
Qu'est-ce que c'est bon ça.
Un effiloché de porc, alors c'est une palette de porc que vous cuisez 5 à 6 heures. Lui, il l'a fait dans un fumoir à 90-100 degrés, arrosé de jus de pomme régulièrement, avec une sauce au paprika et à la cassonade. Et franchement, voilà, c'est beaucoup de travail, c'est long. Mais qu'est-ce qu'on l'a aimé en tout.
Le sucré salé avec le cochon, puis ça s'effiloche. Alors on peut faire ça avec de l'échine en cocotte et un petit bouillon aussi, ça prendra
ça
un petit
aussi.
Peu moins de temps par exemple. Mais alors là, dans le fumoir, ça devait être bon ça. Hein.
C'était extraordinaire.
Oui. Votre goût de la semaine, Emmanuel Rubin.
Moi, personne cuisine pour moi, et je ne cuisine pour personne. Donc je vais au restaurant, nouveau restaurant parisien, et mon goût de la semaine, c'est d'abord une addition. Alors le chef s'appelle Omar Diable, son restaurant aussi, le restaurant est du côté des Halles à Paris, rue Hérold. Il vise vraiment la gastronomie, il l'assume. Très joli décor, années 40, 30, un peu contemporain. On entre par les cuisines et écoutez bien au déjeuner. Je vous signale direct que cet Omar Diable, il aura une étoile Michelin au prochain guide, c'est sûr. Déjeuner à Paris, 39 euros. Une entrée plat, plat ou dessert. Et je vous passe la petite farandole des milliardises en entrée comme en dessert. C'est unique, on ne voit jamais ça. Calculez bien, allez dans n'importe quelle brasserie, Craspec, n'importe quel café qui n'ait plus rien à dire. Pour un plat, vous en avez à peu près la moitié de cette addition-là. 39 euros, je n'ai jamais vu ça. Et vous allez déguster pour ce prix-là une lotte qui vient directement de la bête qui bronze. Elle est d'abord présentée en salle, puis elle vous revient légèrement cuite, comme il se doit, ni trop ni pas assez. Par-dessus, on a fait tomber des condiments de pois chiches épicés et puis un couscous au jus. Parce que Omar Diable, c'est un chef de double culture. Formé en France, français, mais une culture qui vient du Machrek, égyptienne. Et pour la première fois, on n'est pas dans la cuisine fusion. Vous savez, c'est mauvais l'ego qui ne s'emboîte pas bien.
Oui,
oui. On est vraiment dans la cuisine de double culture, de dialogue. On est entre le nord-africain et le français. Superbe recette, 39 euros déjeuner, foncé, ça va pas durer, c'est certain.
Et ben voilà, redites le nom encore une fois.
Omar Diable,
et
rue
ben voilà.
En plus très jolie petite rue.
Merci Emmanuel Rubin. Mon goût de la semaine, c'est un poulao de poulet. C'est une recette de la cuisine indienne, c'est des échalotes qu'on va faire revenir, qu'on va faire griller, on va les cuire avec du riz, avec beaucoup d'épices, du garam masala, du curcuma, des tomates, et c'est un mijoté un petit peu indien. Vous retrouverez la recette sur europe1.fr, je vous la mettrai, je l'ai fait à la télévision il y a pas longtemps, et je l'ai refait encore chez moi en famille, et c'est vraiment une recette de saison. Alors tiens, à propos, c'est l'heure d'aller au marché. C'est l'automne, hein, on le disait. Alors, quels produits allez-vous glisser dans vos cabas ce week-end? Anaïs Kerdraon vous pose la question sur le marché de Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines.
Mangez des cèpes, des girolles, des trompettes de la mort, profitez mesdames.
Alors nous avons toute la farandole de choux, les courges qui arrivent, le potimarron, la butternut, de bons petits plats bien chauds et réconfortants qui arrivent.
Bah le coin qui revient, le céleri branche, les blettes, le céleri boule.
Les cèpes, j'attends que les cueillir moi-même, vu le prix.
Là je vais faire des tartes prunes, oui.
tarte au Reine Claude et quetsch. Et voilà, et bon appétit.
En produit de saison aujourd'hui, on a les belles dorades royales sauvages. Ça, c'est magnifique, c'est à pleine saison, c'est top. Bientôt les coquilles qui arrivent.
C'est quoi la recette fétiche d'automne pour vous?
Ah, la tarte à thym avec des bonnes pommes d'automne.
Des pommes de terre, ensuite des carottes et poireaux pour la soupe, parce que ça se refroidit un petit peu le matin.
Qu'est-ce qu'on met dans la soupe?
Des croutons.
Mais oui, bonne idée, bonhomme, les croutons. Rien de tel qu'une bonne soupe pour se réchauffer, c'est vrai. Et là, on a l'embarras du choix parce qu'on a encore les produits de l'été qui sont là, ceux d'automne qui arrivent. On a entendu les coings, on a entendu les poires.
Oui, parce que l'été a été très chaud, donc il a duré longtemps. C'est vrai qu'on voit encore dans les restaurants quelques courgettes, des très belles choses.
Oui, oui, ça va encore durer.
C'est pas
durer.
Pour l'instant. Non, c'est vraiment...
Non, jusqu'à fin octobre, mais... hein, ça peut continuer.
Exactement.
En général. On a l'été indien en cuisine, c'est vrai que la tarte tatin, ça c'est rassembleur aussi, ça fait du bien. Et puis on va en parler tout à l'heure dans notre dossier spécial automne. C'est la saison des cèpes aussi. Alors si vous avez la chance de les ramasser, de les cueillir en forêt, allez-y, ne vous privez pas parce que sur les marchés, là on est entre 20 et 32 euros le kilo quand même. Hein. Plus il est petit, plus il est cher. Et puis c'est vrai qu'on l'a entendu aussi, les Saint-Jacques... débarque la semaine prochaine. Ça commence, ouais. Alors, vous le savez, cette année, on aime bien jouer avec des bruits de cuisine. Eh bien, on va écouter, tiens, un bruit de cuisine. Vous pourrez jouer au 3921 ou sur europe1.fr. À vous de reconnaître une action ou un ustensile de cuisine. Attention, c'est une cave à vin, 18 bouteilles qui est à gagner, donc ça vaut le coup de se concentrer. Écoutez. Alors, allez, je vous aide. Je vous mets un peu sur la voie, chers auditeurs, en vous disant que c'est un mode de cuisson. Voilà. Un mode de cuisson, mais lequel? Parce qu'il y en a, pléthore des modes de cuisson. Pour participer, c'est simple, vous appelez le 3921, 50 centimes la minute, et vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission ou alors sur europe1.fr.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
C'est l'automne, les amis. Alors à vous, les belles recettes rassembleuses récoltées ici à la table des bons vivants ou alors choisies dans les livres ou découpées dans les magazines, ça se trouve aussi. Et à ce sujet, tiens, je voudrais rendre hommage avec la bande ce samedi matin à Elisabeth Scotto. Elle vient de nous quitter cette semaine. Elle a signé pendant des années, vous savez, les fameuses fiches cuisine du magazine Elle. Alors c'est vrai qu'Elisabeth avait le chic pour faire fusionner des ingrédients et leur donner vie dans une cuisine du quotidien avec souvent une dose inattendue, hein, Ophélie. Vous étiez friande de ces petites fiches cuisine aussi?
Alors moi, c'est surtout l'histoire d'une transmission familiale parce que c'est ma maman qui lit le L et qui me découpe quand elle voit une recette où elle se dit que ça pourrait me plaire, elle me le découpe et elle me l'apporte. Donc il y a vraiment un rapport mère-fille. Et oui, en effet, il y a des choses inattendues. Là, pour l'automne, je me souviens d'un agneau au raisin blanc ou d'une gelée de raisin aussi à tartiner, des choses comme ça, de crème de lentilles, des choses un peu inattendues, très modernes, assez décomplexées, qui se font facilement. C'est vraiment quelque chose pour s'essayer, pour grandir dans la cuisine.
Et elle avait d'ailleurs signé un livre avec ses sœurs, Elisabeth Scotto, qui s'appelle « Secrets de cuisine des sœurs Scotto ». Donc on voulait lui rendre hommage, vous l'avez croisée aussi, Emmanuel.
Oui, elle a travaillé un temps au Figaro, donc on l'a croisée. Alors ce qui était impressionnant, c'est que toutes les recettes étaient véritablement faites chez elle, sur place. Donc il y avait aussi cette réalité de la recette qui était pratiquée et de manière ménagère, domestique. C'est vrai qu'elle était toujours ouverte sur le contemporain, mais c'était du vrai beau travail. Là, je regarde quelques recettes. On parlait de cèpes. Sauté de cèpes au persil. Mais alors mieux, le carpaccio forestier 2015. Alors là, c'est tout simple. Hein, des cèpes qu'on coupe fraîches. Elle faisait revenir de l'huile d'olive avec des pignons de pin. Elle coulait cette huile d'olive. Ça prenait 5 minutes et vous aviez une recette épatante.
Des recettes identifiables. Et vous avez raison de le dire. C'est vrai que le cèpe fait partie de ces rares champignons qu'on peut manger cru. On en parlera dans un instant avec Régis Marcon, le chef 3 étoiles du champignon, qui sera avec nous depuis sa belle haute Loire. Alors, vous l'avez remarqué, hein, un temps d'automne s'est installé sur une grande partie de la France cette semaine. On va parler météo aussi tout à l'heure avec Evelyne Delia qui sera notre invitée. Qu'est-ce que ça représente, tiens, pour vous, l'automne en cuisine, Ophélie? Est-ce qu'il y a des produits que vous aimez retrouver?
Oui, alors, en plus, là, les produits ont de l'avance. Donc, moi qui suis complètement fan des noix fraîches, elles sont depuis déjà 15 jours, 3 semaines. Et avec ça, moi, j'en mets partout en ce moment. Donc, évidemment, dans des salades. La mâche qui revient, une salade de mâche avec un peu de figue, un peu de noix, un peu de petites choses.
Vous retirez la peau de la noix?
Bien sûr, ouais. Alors ça prend beaucoup de temps, il faut un peu d'ongles, mais c'est tellement meilleur parce qu'il n'y a plus de tanin, il n'y a plus d'amertume.
Ça, il y a un petit côté lacté, moi je trouve, dans ces noix fraîches.
C'est incroyable, ça apporte beaucoup de douceur. De la pintade, des courges, du chou. Moi, c'est des choses ça qui me sont. Et puis, alors dans les fromages, le Saint-Nectaire et le bleu, ça fait partie des fromages qui me font attendre l'automne, qui me font espérer l'automne.
Ça, c'est juste parce que les légumes, c'est assez évident, même s'il faut toujours le rappeler, les fruits aussi, mais on oublie que les fromages ont vraiment leur saison, quoi. Et ça, ils s'épanouissent à certains moments mieux qu'à d'autres. Effectivement, les bleus, les fourmes d'Ambert, pas encore le roquefort. Le roquefort, on dit toujours qu'il faut attendre novembre. Mais c'est vrai que c'est là où ils s'épanouissent. Ils sont à belle maturité. Ils sont dans leur intégrité. Il faut les manger maintenant.
On est dans de jolis camaïeux d'automne, hein, des notes orangées, marron, jaune. Et vous avez repéré un livre qui célèbre les bois, justement.
Alors, c'est étonnant.
Emmanuel Rubin.
C'est un livre qui vient de sortir en France. C'est une traduction aux éditions Médicis. Il est signé d'un certain Arthur Kizar Erlark. Alors, lui, il est expert en communication alimentaire. En revanche, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Les saveurs du bois ». Et c'est en fait une galerie de rencontres et de portraits à travers le monde de tous les producteurs qui travaillent le bois dans notre rapport à l'alimentation. Alors bien évidemment, tout ce qui est fermentation, on peut l'imaginer. Tout ce qui est aussi, vous savez, le travail de la barrique. Ça, c'est logique.
Mais la sangle d'épicéa pour le Mont d'Or.
Exactement.
Alors.
Mais alors justement, il rappelle que l'écorce, la racine et la sève que l'on trouve en forêt, et bien participe de la cuisine. On sait tous que le pain, par exemple, est véritablement un adjuvant culinaire formidable.
Emmanuel Renaud, flocon de sel, à Megève, cuisine énormément les bourgeons de pain et les épines de
pain. Alors, il va dans le Piémont, il rencontre aussi, puisqu'on a un peu dans la saison, les chasseurs de truffes. La truffe, elle ne naît que si elle est dans un bois ou au-dessous d'un bois. Donc c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit finalement que le bois, c'est une cuisine, c'est un goût, c'est des saveurs. Pas simplement parce que vous allez faire une cuisson au feu de bois avec des cèpes de vigne ou autre, pas simplement parce que vous allez avoir un fumoir, mais parce que véritablement, il intervient, y compris comme technique et ustensile.
La truffe, là, c'est la fin de la truffe d'été. Pour la truffe d'hiver, il faut attendre encore un petit peu. Alors c'est vrai que cette saison, l'automne aussi, on l'a vu dans certaines régions, c'est l'occasion de se retrouver autour de repas giboyeux quand même. Hein, le poêle, la plume, comme on dit dans la chasse, s'invite à table. Il y a de belles tables giboyeuses, Emmanuel, en France. Hein.
Très, très belles tables giboyeuses. Il y a aussi des chefs qui assument complètement d'être des chasseurs. Alors, on connaît les plus célèbres. Hein, David Bizet à Paris, qui est d'ailleurs un champion du monde du lièvre à la royale. Christophe Pellet, toujours à Paris, l'un des plus célèbres, parce qu'il a d'ailleurs rédigé des ouvrages sur ses scènes de chasse et sa cuisine. Nous sommes du côté de l'Alsace. Mais moi, j'aime bien un chef, là encore parisien, parce qu'il s'appelle Rodolphe Paquin, on l'oublie un peu. Il a un bistrot qui s'appelle le bien nommé Repère de Cartouche. On est rue Amelot. Et lui, c'est vrai que ces dernières années, on essaye de raffiner un peu le gibier, vous savez, de le maniérer un peu, de peut-être lui retirer son côté un peu capiteux. Lui, pas du tout. Il reste dans cette cuisine, un peu des cuivres, de rondeurs, des perdreaux au chou. Allez-y, en plus, il travaille vraiment les prix au plus près.
Il y a des femmes qui cuisinent le gibier aussi en France.
Hein, oui. Moi, je veux rendre hommage aux femmes. Je pense notamment à Hélène Tubac, qui est aux deux Bécasses, à Cerdon-du-Loiret.
Ah, je connais absolument.
En Sologne. Et alors, notamment, elle fait un bake-off. Vous savez, le bake-off, c'est plutôt alsacien. Et l'idée, c'est de réunir trois viandes. Souvent, c'est bœuf, agneau, porc. Et Hélène Tubac, elle fait un bake-off avec du chevreuil, du sanglier et du colvert. Mais elle pourrait aussi faire des tartares de biche. Alors là, on est plus effectivement dans quelque chose d'assez fin pour ceux qui ont peur des gibiers capiteux. On est sur des arômes extrêmement élégants. Et son petit truc, effectivement, c'est de ne pas faire trop mariner. Et puis avec, bon, bah, y a châtaigne, champignons, noisettes, toute la guirlande.
Et alors, c'est vrai que quand on parle de chef qui cuisine la chasse, il faut ne pas oublier de parler d'Olivier Nasty à Kaisersberg, en Alsace. Olivier Nasty, et j'étais chez lui il n'y a pas longtemps et j'ai dégusté, figurez-vous, tenez-vous bien, un carpaccio de chevreuil. Donc déjà, la viande crue, ça peut faire peur à certaines personnes. Le chevreuil en cru, c'était fondant. Il y avait un petit goût de noisette. C'était d'une douceur et d'une subtilité absolument incroyable.
Mais au-delà des goûts, ce qui impressionne parfois, il faut bien le reconnaître avec le gibier, c'est qu'il y a beaucoup de technique derrière. Donc c'est vrai qu'en termes de cuisine, c'est parfois délicat de se lancer, mais il faut oser.
Un petit vin d'automne à conseiller pour nos auditeurs, tiens, Ophélie Neyman.
C'est le moment de sortir les bouteilles qu'on a oubliées. En fait, les vins d'automne, pour moi, ce sont des vins qui vont avoir ces arômes giboyeux, qui vont avoir des arômes de champignons, de sous-bois, qui vont rappeler les balades en forêt. Et ça, on ne les trouve que dans les vins qui ont développé des arômes tertiaires, des arômes de vieillissement, qui vont avoir 5, 10, 15, 20, 25 ans, ça dépend du vin, mais qui auront déjà passé le côté optimum avec des fruits qui vont trouver plus compotés, plus séchés, et tous les arômes des sous-bois qu'on peut trouver dedans.
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Oh, écoutez, mais qu'est-ce que je vois ? Un volet ? Un petit cep, des girolles, des chanterelles. Voilà, ça c'est le bruit des pas dans les feuilles mortes. C'est Loïc Vimard qui tenait absolument à nous faire écouter ce son. C'est un homme bucolique, notre réalisateur, on ne le dit pas assez. Et il avait bien raison.
Il porte le bonnet des chasseurs de champignons.
Exactement,
dans un
il a son petit bonnet. Votre champignon préféré de l'automne, tiens, Ophélie.
Ça a longtemps été le cep, et puis j'en ai un peu trop mangé. Maintenant, je suis plutôt girolle. Trompette de la mort aussi.
Les girolles. Emmanuel Rubin.
Moi, c'est un peu les girolles, mais j'ai découvert il y a quelques saisons au restaurant la morille des pins.
Ah, le Sparasis crépus. Exact,
bravo. Et c'est assez étonnant. Donc, on est dans la morille, mais une morille beaucoup plus en dentelle, étonnante, qui se cuisine presque à l'étuvée. Vous rajoutez une sauce, presque une sauce parfois très capiteuse. C'est délicieux.
On dirait un gros chou avec plein d'alvéoles. Et c'est vrai qu'il faut une sauce. Eh bien, figurez-vous que l'homme qui m'a fait découvrir ce champignon il y a de nombreuses années, il est avec nous au téléphone. C'est Régis Marcon, le chef 3 étoiles avec son fils Jacques à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire. Et le champignon, c'est un bonheur familial chez les Marcon. Bonjour Régis.
Oui, bonjour Laurent et bonjour à tous.
Comment
bonjour.
Ça va?
Écoutez, ça va très bien, d'autant plus que... On vit sur le plateau une année un peu exceptionnelle au niveau des champignons.
Beaucoup de pluie ces derniers jours. Et elle se porte comment, la cueillette? Racontez-nous.
Alors, de très bonnes cueillettes, comme vous savez, de cèpe, ça va par vague, bien entendu. Mais au niveau de la variété, c'est tout simplement un vrai paradis des champignons en ce moment.
Ça n'a pas été trop arrosé encore. On a le bon ratio humidité-chaleur.
Tout à fait. Là, ce matin, on est à 10-12 degrés. C'est un peu plus froid, mais... On a eu des belles températures au-dessus de 15 et c'est formidable.
Alors, nos auditeurs, vous le savez, sont avides de conseils pour cuisiner les champignons. Régis, ils vont peut-être y aller ce week-end. Si on rappelait, tiens, tout simplement, les secrets de la poêlée de champignons. Moi, j'ai eu la chance et le bonheur de vous voir cuisiner ces poêlées de champignons dans vos belles cuisines de Saint-Bonnet-le-Froid. Si on prend des girolles, par exemple, rappelons tiens, les trois commandements de la poêlée de champignons.
Alors, je ne sais pas si c'est trois commandements, mais toujours est-il que... Le conseil le plus important, à mon avis, c'est d'éviter les fricassées un peu trop grasses. On peut des fois regretter de dire c'est un peu lourd, les champignons. Bah, évidemment, la matière grasse est souvent trop abondante. Alors, je ne suis pas sur les produits Tefal, mais la Tefal reste quand même la poêle qui permet de poêler les champignons sans ajouter trop de matière grasse. Alors, après, chacun l'adapte. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une bonne source de chaleur, de façon à ce que quand on met les champignons nettoyés, coupés ou entiers, on puisse les saisir le mieux possible à la poêle, à feu vif. Éviter de superposer les champignons.
Et oui.
Vous savez très bien que le champignon, c'est plus de 90% quelquefois d'humidité. Ils vont bouillir systématiquement. Et ça ne sera pas le même rendu, bien entendu.
On s'y reprend plusieurs fois, évidemment. Et est-ce que vous êtes un partisan de l'ail et du persil ou pas du tout, hein? Je voyais la question dans vos yeux, Emmanuel Rubin.
Oui, est-ce que ça, ces fameuses persillades, est-ce que ça vient abîmer l'intégrité du champignon ou est-ce que ça la renforce?
Alors écoutez, il y a certaines espèces, forcément, où on évite l'ail. Je parle du meunier, par exemple, qui a un goût très fin, voire les chanterelles. Mais moi, je suis un inconditionnel de l'ail et du persil. Pas, mais le tout, ça, c'est après de le doser, évidemment, une fricassée, on sent que l'ail, c'est un peu dommage. Mais l'ail, il faut le tailler correctement, on le hache, mais très très fin. Alors un petit conseil, vous mettez du sel fin, vous l'écrasez un petit peu, et vous allez mettre dans la poêle au dernier moment cette petite pulpe d'ail qui va se mélanger avec l'ensemble, et vous n'aurez pas ce petit morceau d'ail qui va se coincer sous votre dent, qui va rendre la fricassée un peu trop forte.
Lucie Lescourou, la rédactrice en chef, a levé le pouce, justement, parce que ça lui parle, ce morceau d'ail coincé parfois dans les dents. Emmanuel Rubin.
Non, c'était pas une question sur la cuisine, mais c'est un Parisien qui parle. Mais justement, est-ce qu'une journée de cueillette, une journée de chasse aux champignons, est-ce que c'est un peu comme parfois la pêche? Il faut se lever tôt, il y a des heures, c'est plutôt le soir, c'est plutôt le matin, ça se passe comment?
Alors, pour moi... Mon cas personnel, ça se passe un peu différemment parce que pour moi, aller aux champignons, et j'y vais très souvent, c'est surtout un moment de détente parce que vous êtes en symbiose avec la nature, vous avez besoin de ce calme. Et après, je ramasse tout, pratiquement tout, y compris même ceux qui sont dangereux parce qu'on apprend dans la forêt, il ne faut pas les mélanger, bien entendu. Et on a la chance forcément à Saint-Bonnet et surtout au restaurant d'avoir un mycologue à demeure, embauché aux demeures, qui lui avise sur tous les nouvelles... type de champignons qu'on peut trouver dans la forêt. C'est un petit séance et je peux vous dire qu'on se régale à identifier tous ces champignons à la maison.
Et vous aimez tellement les champignons, Régis Marcon, qu'il y a une prochaine fête du champignon qui va avoir lieu chez vous à Saint-Bonnet-le-Froy. Ce sera les samedis 5 et dimanche 6 novembre prochain.
Ah, oui.
Et c'est un événement, ça, parce que tout le village et tous les cafés et tous les restaurants vivent au rythme des champignons, là. Hein.
Ah, c'est une fête qui réunit presque 30 000 personnes en un jour, donc forcément. Et cette année, la nouveauté, on innove avec un concours de la tarte aux champignons, mais uniquement adressé à mesdames.
Ah, bah très bien. Et, bah voilà. Et je vois qu'il y aura un repas confectionné par les chefs du village à 24 euros le repas. Hein. C'est bien ça, j'ai des bonnes infos, Régis Marcon?
Ah oui, voilà, c'est la tradition. Alors, je ne vous dirai pas ce qui se passe après. Le champignon a cet essai un peu euphorique qui fait qu'on voit souvent des personnes danser sur les tables.
Alors, mangez-moi. Ouais, voilà. On connaît. Qu'est-ce qu'on boit tiens, avec une belle poêlée de cèpe ou une fricassée de girolles, Ophélie Neyman?
Alors, tout dépend de la force gustative du champignon. Hein, mais l'idée, c'est de ne pas l'écraser. Moi, je suis très fan, évidemment, des beaux blancs un peu gras. Qui vous remplacez la matière grasse, justement. Vous n'êtes pas obligé de mettre énormément de beurre. Si vous avez un blanc très enveloppant, très onctueux, très sensuel, ça va vous envelopper le champignon.
Un condrieux, par exemple?
Par exemple, un condrieux, par exemple, un rhône blanc. On peut aller, mais il y a même des vaqueras blancs, des choses comme ça. Et puis, on peut, si on a envie de vin rouge, à ce moment-là, je conseillerais peut-être des bourgognes rouges, des vins de la Loire, des beaujolais, des choses assez fines. Je ne veux pas qu'il y ait trop de tanins qui puissent écraser les champignons et qui puissent faire ressortir un côté métallique sur les champignons. Ce serait dommage.
Ah, nous sommes d'accord. Et je renvoie nos auditeurs à votre livre, Régis, Champignons aux éditions de La Martinière. C'est une véritable Bible et une encyclopédie. Et vous venez de paraître aux mêmes éditions de La Martinière un livre consacré aux fruits qui s'appelle Fruits, tout simplement. Et je viens de le feuilleter là ce matin, juste avant l'émission. Et j'ai repéré, Régis, une recette de coin farci à l'agneau. Coin. Là, on est en plein dans la saison aussi, là. Hein.
Oui, le coin est un fruit. Moi, personnellement, c'est celui que je préfère en automne. Et associé à l'agneau qui a quand même un petit peu de goût, en fait, je n'invente rien. C'est une recette un peu issue de la cuisine arménienne parce que en ce moment, j'ai beaucoup d'Arméniens comme amis et ils m'inspirent dans ma cuisine.
Et ben voilà, le coin farci à l'agneau dans Fruits aux éditions de La Martinière. Merci Régis d'avoir été avec nous au téléphone. Et on vient vous voir à Saint-Bonnet-le-Froid les samedis 5 et dimanche 6 novembre pour la grande fête du champignon, vous pensez bien. Et on retrouvera justement les bons conseils dans la newsletter à table sur Europe 1. C'est gratuit, il suffit de vous y abonner. Tiens, on parlait de vin avec Ophélie. On vous offre une cave à vin, 18 bouteilles. Il faut juste reconnaître un bruit de cuisine. De quoi s'agit-il? 39 21 50 centimes la minute, vous laissez vos coordonnées ou rendez-vous sur europe1.fr.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Eh bien, nous revoilà avec Ophélie Neyman et Emmanuel Rubin. Evelyne Delia nous rejoint dans un instant. Et c'est vrai que la météo a une vraie incidence hein, sur notre agriculture et par ricochet, ben, évidemment, sur notre alimentation. Et ceux qui ont un potager le savent. Tiens, à propos, Ophélie, Emmanuel, est-ce que vous avez vu la nouvelle émission de Julie Andrieux sur France 3?
Pas la télé.
Pas non plus la télé.
Ben moi, je vais regarder pour vous. Ça s'appelle Les Potagers de Julie. Et ben, c'est vachement bien parce que Julie Andrieux nous retrouve avec des experts en jardinage. Elle met les mains à la pâte dans la terre, si je puis dire, pour vulgariser le maraîchage. Et on va de la graine à l'assiette. L'épisode de samedi dernier était consacré à l'aubergine de Barbantane, dans le sud, effectivement. Et elle s'amuse aussi à prendre le produit qu'elle va voir et elle va le cuisiner à la fin de l'émission, mais à le cultiver dans sa région à elle, donc en Île-de-France. Donc on est sur du temps long, comme on dit aujourd'hui, où tout va très vite.
On va vraiment suivre.
On suit l'évolution, on suit les cycles d'un potager sur le temps long. Et c'est ça que je trouve vachement bien. Ça s'appelle Les Potagers de Julie. Voilà, je voulais faire un petit clin d'œil parce que c'est une belle émission. Alors chaque samedi, vous le savez aussi, nous nous amusons des déboires que nous pouvons rencontrer en cuisine. Et on a du bol, hein, parce qu'on a une spécialiste en déboires. Elle s'appelle Claire Dutronc, c'est la programmatrice de l'émission. Et tout ce qu'elle raconte est vrai, je vous l'assure. Bonjour Claire.
Bonjour à tous.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors?
Cette fois, je vais vous raconter un accident culinaire qui m'est arrivé il y a un an, jour pour jour, le 1er octobre 2021.
Ah, c'est précis ça.
Oui, très. Alors, pourquoi je me souviens aussi bien de la date? Parce que tout simplement, c'est l'anniversaire de ma nièce Pauline. Et l'année dernière, pour ses 13 ans, je lui avais promis d'apporter un dessert. Mais, un dessert fait maison.
Mais vous avez raison, il n'y a rien de tel qu'un dessert fait maison.
C'est un dessert fait avec amour.
Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que vous lui aviez préparé alors?
Une tarte aux pralines parce qu'elle adore ça. Et en plus, en regardant la recette, ça me semblait pas trop compliqué.
Non, c'est pas compliqué.
Voilà, donc ça,
non.
Vous est, ouais. Ça va peut-être pas vous étonner, mais ouais. Ça m'arrangeait pour le coup.
Vous avez fait la pâte vous-même quand même.
Pardon ?
Vous avez fait la pâte vous-même.
Alors, ne compliquez pas la vie avec vos questions qui embarrassent tout le monde. Non, non, voilà. C'est non, je n'avais pas fait la pâte moi-même.
Bon.
Mais j'avais acheté une pâte sablée, ça avait un peu plus.
Mais oui, il y en a des biens, il y en a des biens. Alors, on vous écoute, qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah alors, je me lance, je préchauffe le four, j'étale ma pâte dans un plat, je la fais cuire pendant 10-15 minutes, à peu près. Pendant ce temps, je prépare mon mélange, il y a des pralines concassées, la crème fraîche.
Oui.
Quand mon fond de tarte est doré, je verse mon mélange, crème praline, et hop, je le mets au four.
Là, je me dis, c'est top, là.
Là, je me dis, franchement, c'est simple. Si je rate, là, non, c'est pas possible. Je ne peux pas la rater. La recette disait 15 minutes de cuisson. Mais bon, moi, quand j'ai ouvert le four, au bout de 15 minutes, ça me semblait super liquide. Vous savez, il y avait des petites bulles à la surface.
Ça bleu-bleutait, oui.
Oui, il fallait des petites bulles.
Oui.
Donc moi, je me suis dit, ces petites bulles, c'est pas cuit. Donc j'ai monté un peu la température. Au bout de 20 minutes, je sors ma tarte du four, je la laisse refroidir toute une nuit, même dans le frigo. Et franchement, quand je la porte, là, je suis sûre de moi, elle a belle allure. Je me souviens même de ma nièce qui, en la voyant, me dit « Waouh, t'es la meilleure tante de la Terre, j'ai jamais vu ça. »
Bah alors, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, une recette qui se termine
moi,
bien.
Moi, ça y est, j'ai mon étoile, ça y est. Alors, oui, enfin, non, ça c'est pas... Ah. Voilà. En fait, on a eu un problème technique quand on a voulu la manger.
Racontez.
Impossible de couper la tarte, impossible. C'était un bloc. On a essayé plusieurs couteaux, rien à faire, un bloc. Et là, j'ai un peu honte, mais Laurent, je vous promets que ce que je vous raconte est vrai. Je vois ma sœur qui se lève de table et elle revient avec un tournevis et un marteau.
Ah, c'est monsieur bricolage, votre sœur.
Elle était surtout très vexante sur ce coup-là parce que je la vois taper tout doucement sur ma tarte pour en faire des parts. Alors bon, elle y arrive, tant bien que mal. Enfin, si je suis pas honnête.
C'est vrai, hein, je le dis à nos auditeurs, ouais, c'est vrai.
Hein. Voilà, ouais. C'est bon, voilà. Surtout, à vrai dire, elle n'y arrive pas trop, parce que ça part dans tous les sens. C'est un carnage.
Un carnage, on peut le dire.
Alors chacun attrape un bout quand même, et essaie de demander dedans pour ne pas me vexer. Et là, j'entends très vite ma sœur qui crie « Pauline, arrête, tu vas ruiner tout le travail de l'orthodontiste, ça nous a coûté assez cher, arrête, je t'en supplie,
elle a raison.
Prends plutôt de la glace à la vanille, je crois qu'il nous en reste. » Voilà, donc voilà l'histoire de ma tarte praline.
Bah, ça moi, partait bien.
Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi le sort s'acharne comme
mais
ça?
Mais pourquoi la laisser encore au four? Les 15 minutes suffisaient
c'est
parce qu'effectivement... Oui, mais les petites bulles, c'est bon signe justement, parce que la tarte aux pralines, c'est un mélange de praline rose, vous l'avez dit, concassée avec de la crème. Et il faut de l'humidité dans la crème pour que cette tarte aux pralines, quand on la découpe, ne soit pas justement casse-dents comme vous l'avez raconté, mais qu'elle soit encore un petit peu souple. Donc en prolongeant la cuisson, vous avez enlevé l'humidité de cette garniture, donc c'est devenu tout sec, plus une heure dans le réfrigérateur, c'était effectivement un bloc le lendemain. Donc les 15 minutes de cuisson suffisent avec la garniture.
Donc à 15 minutes près, je frôlais le chef-d'œuvre.
Ouais. Pas loin, on peut le dire.
Là, c'est une tarte. Tu te prends une tarte, puis après une praline.
C'est ça, ça fait beaucoup.
Ça fait mal, t'avais compris la recette.
Ça fait mal.
Et une pensée au créateur de la tarte aux pralines roses, c'était le chef Alain Chapelle, quand même, dans les années 70. Et il y en a de très belles dans la région lyonnaise, la Maison Sève, par exemple, et puis la boulangerie Jocteur, par exemple. Bah, merci Claire Dutronc, essayez de faire mieux d'ici la prochaine fois.
Je ne sais plus.
C'est l'heure de jouer avec nos bruits de cuisine. Europe 1 vous offre une cave à vin de marque française Climadif, une cave à vin de 18 bouteilles idéale pour mettre à parfaite température de dégustation vos bouteilles et profiter de tous les arômes du vin. Elle est ultra silencieuse et design. Vous pouvez la découvrir sur climadif.com et on va jouer tout de suite avec Valérie qui est au téléphone. Bonjour Valérie.
Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants.
Comment ça va?
Bonjour.
Le week-end se passe bien Valérie?
Oui, très bien.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis responsable qualité.
Ah, alors est-ce que vous avez la qualité de ce mode de cuisson? Eh bien on écoute.
Alors pour moi je pense...
Ah oui, vous l'avez entendu tout à l'heure déjà, vous êtes au taquet. On vous écoute, allez-y, oui.
Je pense à quelque chose qui est saisi dans un wok.
Ah, cuisson, wok. Effectivement, j'ai dit qu'il s'agissait d'un mode de cuisson. Eh bien, ce n'est pas celui-ci. Écoutez bien parce qu'il y a une subtilité qui quand même vous permet de redécouvrir ce mode de cuisson particulier. Bon, bah désolé Valérie, mais vous n'avez pas tout perdu. On vous envoie un joli livre de la rédaction. D'accord ?
Ok, super.
Merci Valérie.
On peut avoir une petite dédicace des bons vivants ?
Mais évidemment, on va tous signer, vous pensez bien. On va s'appliquer. Merci Valérie.
Parfait.
Désolé
merci.
Pour le week-end.
Et merci de nous écouter.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invitée. Elle est la présentatrice la plus regardée de la télévision française. Référence et visage incontournable de la météo. Elle était la première, tiens, à parler du changement climatique dans ses bulletins météo. C'est un rayon de soleil. Nous sommes très heureux d'accueillir Evelyne Delia. Bonjour Evelyne.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. Mais je suis très bonjour. Heureuse d'être là avec vous.
Merci d'être là. Oui, parce que vous nous écoutez souvent le samedi matin.
Absolument, j'écoute. Et puis, c'est formidable parce que on découvre les invités, une autre facette des invités, et ça c'est important, et c'est toujours une très jolie facette.
Eh bien c'est ce qu'on va faire avec vous, jusqu'à midi et demi, vous pensez bien. Et justement, en préparant l'émission, alors moi, on se connaît bien,
hein, on se connaît bien.
Et Evelyne, eh bien j'ai découvert une chose sur vous que je ne connaissais pas, vous êtes née en Allemagne.
Oui, alors je suis née à Cologne, mais je ne connais absolument pas la ville. J'ai vécu mes premiers jours et mes premiers mois aussi à Bordeaux, puisque mon père, enfin la famille, est d'origine bordelaise. C'est pour ça que j'aime bien la gastronomie les bons vins.
Vous faites le marché régulièrement.
Ah oui, moi je fais le marché. Et alors, j'ai un marché fabuleux parce que c'est en plein Paris. Mais vous avez, je trouve que c'est de plus en plus les commerçants qui viennent de province. Moi, j'ai mon maraîcher qui est en région parisienne. Alors, avec lui, c'est du bonheur parce qu'évidemment, la météo, pour lui, c'est tellement important. Alors, et c'est vrai que cet été, c'était une catastrophe avec cette sécheresse pour lui. Il faut un peu de froid, il n'en faut pas trop. C'est là où on voit la difficulté de leur métier. Mais c'est fabuleux.
Quel est votre goût de la semaine, Evelyne Delia?
Ah, moi, mon goût, c'est un goût un peu de toutes les semaines. Parce que, il est vrai qu'à cette époque, justement, de l'automne, il y a des goûts fabuleux. Hein. Moi, ce que j'adore, ça a été, en septembre, j'ai retrouvé mon ostréiculteur, justement, au marché. Qui n'était pas là juin, juillet, août, et qui vient de l'île d'Oléron. Donc, ce sont ses propres huîtres qu'il vend, et ça, c'est fabuleux, c'est un bonheur. Et puis, j'ai retrouvé aussi la marchande de coquillages et de soupe de poisson qui vient de la région d'Ouistreham. En Normandie, elle est du côté normand. Et alors, ils arrivent avec leurs coquillages et c'est fabuleux. Et puis, ils ont les coquillages en ce moment. Moi, j'adore les bulots. Il n'y avait pas de bulots parce qu'il n'y avait pas trop de pêche. Ils étaient trop chers. Et puis, avec la chaleur, c'était...
Il y a une saisonnalité pour le coquillage, exactement. Pour le poisson. Et on va déguster un poisson pour vous dans un instant.
Elle fait une soupe de poisson à base d'étrilles. Oh, c'est un régal.
Qu'est-ce que c'est bon. Alors, c'est vrai que vous le dites, hein, la météo a une vraie incidence sur notre alimentation. Avec ce qui se passe au niveau des économies d'énergie que nous sommes tous censés faire, vous allez mettre en place, d'ailleurs, à partir de lundi, dans votre bulletin météo, une nouveauté. On va revenir à ces gestes bons pour la planète.
Absolument. Alors, une nouveauté, c'est très bien dit qu'on va revenir, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'années, je l'ai déjà fait. Puisque j'étais, c'est vrai, une des premières à...
Ah, je me souviens, moi, du coup, on en parlait beaucoup, on en rigolait, mais c'est un geste très efficace, le couvercle sur la casserole pour faire bouillir de l'eau.
Exactement, le couvercle sur la casserole, vous faites une grosse économie d'énergie. Et il y a... Alors, dans la cuisine, il y a des tas de choses comme ça. Écoutez, si vous avez du givre sur...
Dans le frigo,
un demi-centimètre de givre, ça va vite, c'est 30% d'énergie en plus de consommer. Enfin, il y a des tas de choses. Nettoyer la grille derrière le frigo aussi, parce que la poussière, ça freine.
Va nous remettre à niveau sur du bon sens. On va venir chez vous, Emmanuel Urbain. Tiens,
j'ai peur.
Gardez la parole, tiens, parce que justement, Emmanuel, la conscience écologique chère à Evelyne vous a inspiré. Vous nous racontez ce samedi la cuisine des restes. Son actualité, mais aussi sa petite histoire, hein, parce qu'on le sait tous, elle nous suit depuis la nuit des temps, cette cuisine des restes.
Exactement, alors l'actualité, on en parle, parce que je pense que, comme jamais, les chefs ont désormais une vraie conscience alimentaire, on le voit, il y a de plus en plus de chefs qui communiquent et qui plébiscitent le zéro déchet. On voit aussi notre célèbre compagnon du guide Michelin, qui depuis quelques saisons sanctifie certaines adresses d'une étoile verte, qui compense justement toutes ces initiatives. Et puis, ma foi, à tout malheur, vous savez, parfois il y a quelque chose de bon. Alors effectivement, l'inflation des prix, c'est pas formidable, c'est même malheureux, mais dans le même temps, ça va peut-être nous amener à réfléchir à notre manière de cuisiner. Et puis, il y a un bon pouls pour comprendre les tendances gastronomiques. Moi, je vais souvent dans les rayonnages des librairies pour voir ce qui sort en matière culinaire. Et depuis quelques saisons, il y a de plus en plus de livres dédiés à la cuisine des restes. Il y en a un qui vient de sortir aux éditions Solar. Ça s'appelle Il en reste. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que pour une fois, c'est pas une ménagère qu'il signe ou un cuisinier amateur, mais un vrai chef. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même des sacrées techniques. Et c'est toujours intéressant quand un chef nous donne ses recettes et ses techniques sur les restes.
Alors, si elle est aujourd'hui saluée, plébiscitée, cette cuisine-là, elle n'est pas neuve. Hein, et elle n'a pas toujours été aussi célébrée, pour le coup.
Alors, très étonnant, il y a deux temps dans l'histoire de la cuisine des restes. Alors, elle date depuis, effectivement, l'Antiquité, mais de l'Antiquité jusqu'à la fin de l'Ancien Régime en France, au XVIIIe siècle, eh bien, il y avait deux mondes. La cuisine des restes et la gastronomie, c'était une lutte des classes comme les autres. Il y avait le monde des nantis, des aristocrates, des riches, puis le monde des pauvres, des miséreux et souvent qui souffraient terriblement du fait des famines. Mais les riches à l'époque, et on le voit dans certains films, notamment au Moyen-Âge, vous savez, pas simplement dans les livres, on les lit dans les livres d'histoire, eh bien, ils distribuaient leurs restes. Alors ça peut choquer aujourd'hui, mais vraiment, on les distribuait comme cela aux manants. Il y a même un métier qui est apparu au XVIIe, XVIIIe siècle, notamment à Paris, qui s'appelait le regrattier. Et le regrattier, il y a une rue d'ailleurs qui lui est dédiée à Paris, du côté du Marais. Le regrattier, c'est quelqu'un qui récupérait tous ses restes et qui en faisait commerce. Il les repopotait à peu près. C'est une drôle d'histoire, mais ça a vraiment été un métier très important, à tel point qu'à un moment donné, à la fin du XVIIIe, quand il commence à avoir une révolte un peu du peuple et une nouvelle conscience, le peuple est persuadé que le monde des nantis est en train de l'empoisonner. Et donc, on va devoir légiférer autour de ces regrattiers.
Et avec l'avènement de la cuisine bourgeoise et du restaurant au 19e siècle, la cuisine des restes change pas mal aussi.
Alors là, elle devient véritablement une vertu. Alors, les bourgeois ont pris le pouvoir, mais chez les bourgeois, on a le sens du travail et de l'argent. On peut tout leur reprocher sauf ça. Donc, justement, cuisiner les restes et ne rien gâcher, parce qu'un sou est un sou, c'est important. Et on le voit très bien parce que beaucoup de bréviaires, de manuels sont publiés où, justement, on apprend la cuisine des restes. Et puis, c'est l'avènement et la naissance du grand restaurant au 19e siècle. Et là encore, c'est un commerce comme les autres. Et donc, il faut faire une économie. Et donc, on invente les restes. Et ce qu'il y a de formidable chez les restes, c'est qu'aujourd'hui, on ne le sait pas, mais on a inventé, grâce à ça, beaucoup de techniques, les fameux fonds de veau, les bouillons, et puis plein de plats, le plus célèbre étant peut-être le pain perdu.
Eh bien, je crois que vous aimez le pain perdu, Evelyne.
Oui, et puis cuisiner les restes, c'est hyper important. C'est ne pas jeter. On peut donner, mais aussi soi-même cuisiner les restes. Je pense que nos grands-parents le faisaient facilement,
bien
peut-être
sûr.
Plus facilement que nous.
C'est un réflexe.
Voilà,
on jette c'était
énormément, un réflexe. Hein, on jette 20 à 30 kilos de nourriture par an consommable, personne. C'est
oui.
énorme.
Et ils avaient d'autant plus raison, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il ne faut pas confondre les restes et les déchets. Oui. Les restes, c'est justement une carcasse, c'est la peau du poulet, ça c'est un reste.
Et on en fait quelque chose, et on lance le débat.
Exactement.
Bah, les déchets, on les met dans le compost.
Voilà, aujourd'hui, les chefs ont cette conscience aussi des déchets aujourd'hui, notamment via le compost.
Allez, on envoie le bar à la deux, les gars.
Et le brochette de bœuf, un tartare et une fripe.
Pour flamber, il faut pencher. Voilà, pour que ça flambe, voilà.
Europe 1.
Hop, hop, assaisonnement, hop, on enlève.
11h, midi 30, la table des bons vivants.
Allez!
Laurent Mariotte.
Eh oui, qu'on se le dise, pour flamber, il faut pencher, on n'y pense pas assez. Bon samedi midi à table avec nous. Bienvenue si vous arrivez et merci d'être là si vous êtes avec nous depuis 11h. Nous sommes avec Evelyne Delia, la présentatrice météo préférée des Français, la chef du service météo de TF1 et aussi, à partir d'aujourd'hui, chère Evelyne, ambassadrice de la campagne Ruban Rose.
Oui, tout à fait. Alors, c'est formidable parce que ça existe depuis 30 ans. C'est une très belle association pour récolter des dons, mais surtout aussi pour prévenir, pour faire de la prévention. Et c'est vraiment pour ça que je me suis impliquée autour du cancer du sein et surtout de dire aux femmes, c'est le slogan, montrez vos seins à votre médecin.
Faites-vous dépister.
Exactement, le dépistage, c'est important. Donc ce soir, il y a une grande fête, ça se passe au Trocadéro, comme tous les ans d'ailleurs, au pied de la Tour Eiffel, que l'on va illuminer de rose, puisque c'est le mois d'octobre, octobre rose, qui va commencer en ce 1er octobre.
Toujours au poste depuis tant d'années à la météo,
oui.
Chère Evelyne, je regardais, donc vous avez récemment fêté vos 50 ans de carrière. Est-ce que vous auriez pu imaginer être toujours à l'antenne aujourd'hui quand vous avez démarré à l'ORTF à l'époque?
À l'ORTF. Vous savez, je vais vous dire, Laurent, je n'ai jamais fait de plan de carrière. Donc voilà, ça s'est produit au fil des années. Au fil des jours, qui était aussi le titre d'une émission que j'avais animée, une émission de consommation déjà à l'époque, dans les années 75-80 avant la maison de TF1.
Mais d'ailleurs, vous en avez fait, oui, des émissions. La maison de TF1, c'était génial. C'était super, la maison de
la
TF1.
Maison, une vraie maison, c'était une maison qui était à Gentilly, en région parisienne. Et c'était la première fois qu'on faisait vraiment une véritable... Parce qu'avant, c'est vrai que la cuisine, le bricolage et tout ça, ça se faisait dans un studio. Là, on avait une vraie maison. Et ce qui était formidable, c'est que les téléspectateurs vivaient de semaine en semaine l'évolution des travaux, l'évolution du jardin avec Nicolas le jardinier. Et puis, on faisait beaucoup de cuisine aussi.
Alors tiens, une question qu'on vous pose aussi, mais comment faites-vous, Evelyne Delia, pour avoir une silhouette pareille, une telle ligne toujours ? Vous ne sautez pas de repas, hein ?
Non.
Malgré la météo tardive.
Je ne saute aucun repas, je suis incapable de le faire, je crois que j'ai une machine qui brûle énormément. Mais en revanche, je ne mange jamais entre les repas. Et ça n'est pas du tout que je me l'inflige, c'est que je ne peux pas. Si je mange quelque chose, je ne suis pas bien. Donc voilà, mon organisme est comme ça.
Et vous adorez le poisson ?
J'adore le poisson.
Ah, le poisson. Eh bien, on va faire un beau plat du jour autour du poisson. Je vous présente Pauline Séné, qui est chef juste en face de vous.
Bonjour
Pauline.
Bonjour Evelyne.
Alors, les auditeurs vous connaissent probablement parce qu'on vous a vu dans Top Chef en 2021. Vous avez ouvert un restaurant à Paris qui s'appelait Fripon. On va vous retrouver dans une nouvelle table, on va en parler dans un instant. Et puis, vous avez fait vos classes aussi au Pays Basque, je crois, Pauline.
Oui, exactement, Laurent. J'ai fait mon apprentissage à l'Auberge Basque avec Cédric
Béchade, qu'on salue, absolument, grand chef cuisinier. Et aujourd'hui, vous signez la carte du restaurant Arboré à l'hôtel Royal Madeleine dans l'8e arrondissement.
Moi, j'arrive là.
Ouverture dans une semaine. La critique gastronomique va bientôt pointer le bout de son museau. Et le poisson, effectivement, est un ingrédient, est un produit que vous aimez mettre au centre de votre carte. Hein.
Oui, quand je constitue mes cartes, j'ai un attrait principal pour le poisson, pour les fruits de mer. 70% de ma carte est autour des produits de la mer.
Oh bah au Pays Basque,
on est servi aussi.
Le poisson, c'est fabuleux.
Ouais.
Moi, j'ai des souvenirs d'enfance du marché de Saint-Jean-de-Luz, puisque d'origine bordelaise, on allait souvent là-bas. Et ça l'est toujours d'ailleurs, mais c'est extraordinaire. Et
j'ai le merlu de Saint-Jean-de-Luz.
Le merlu,
voilà,
bien évidemment.
Poisson, abordable pour le coup, là aussi, le merlu. Qu'est-ce que vous nous avez préparé pour Evelyne Delia qui adore le poisson, donc, Pauline ?
Donc là, je vous ai préparé un lieu jaune
qui
est cuit au four basse température avec un chou pak choy grillé, un beurre blanc et un condiment citron.
Le pak choy qu'on appelle le chou chinois aussi.
Exactement.
Un petit peu, qui est beau, on dirait un oignon nouveau, presque avec un bulbe bien renflé. Et puis
c'est
cette tige.
C'est une petite fleur.
Oui, c'est très joli. Alors l'assiette est magnifique.
Oui,
vous allez la voir sur
beau.
europe1.fr. Elle est sublime, votre assiette.
Merci.
Quel est ce petit jus, cette petite sauce qu'il y a autour
là ? Une petite
là
sauce là, qui est fine, mais qui a du goût.
Alors, faut qu'on devine, c'est ça. Attends.
Exactement,
alors,
vous allez devoir deviner.
C'est exotique ?
C'est exotique.
C'est très bon.
Ah, avec... critique gastronomique à l'œuvre.
Alors, fallait pas m'inviter.
Alors, Ophélie Neyman.
Moi, je vais vous laisser chercher.
Plus,
moi,
quand
je mange.
Manger,
c'est hyper bon.
C'est hyper bon.
Le pak choy, c'est vrai que ça, en plus, c'est très croustillant. Ça donne quelque chose de très croquant.
Et le poisson est délicieux.
Le poisson est complètement fondant. Vous avez laissé la peau. Et ça, c'est très rassurant, je trouve, pour les cuisiniers débutants, de se dire que oui, c'est bon aussi avec la peau. Oui, moi, j'estime que tout se mange, en fait.
Comment vous réinterprétez ce beurre blanc ?
Hein.
Racontez-nous.
Alors, c'est le miso.
Soja fermenté.
Exactement.
La pâte de soja fermenté. D'accord.
Oui.
Comment vous la travaillez pour la transformer en beurre blanc ?
En fait, je fais mon beurre blanc classique. Donc, réduction vin blanc, vinaigre.
Échalote.
Échalote.
Ouais.
Je laisse réduire à moitié. Je filtre. Parce que je veux que ça soit lisse. Mais on peut laisser les échalotes, si on aime
de la matière.
La matière, exactement.
Oui.
Après, j'ajoute mon beurre froid en morceaux, que je monte en fouettant. Donc,
comme le beurre blanc traditionnel.
Un beurre blanc classique. Et ensuite, je viens ajouter ma pâte miso.
D'accord.
Alors, j'adore parce qu'elle joint le mouvement
à la parole.
Parole. C'est-à-dire, elle fouettait.
Exactement.
Elle a fait tous les gestes. Mais pour ne rien oublier, elle a raison, Pauline Séné.
Mais il y a plusieurs types de miso. Hein. Il me semble qu'on peut choisir des miso plus ou moins fermentés, en fait.
C'est ça. Et, et du coup, plus ou moins présents au goût.
Oui. Là, c'est plus un miso blanc. Donc, il est un peu plus fermenté parce qu'il était un peu brun. Là, vous pouvez voir la couleur. Mais il reste assez doux.
Et le pak choy, comment l'avez-vous cuisiné ? Parce qu'il a un petit côté grillé sur le bout des feuilles. J'aime bien ça, moi.
Eh bien, je l'ai poêlé à la poêle,
tout simplement.
Tout simplement.
Bien coloré et je l'ai fini au four
mais il
pour
reste
qu'il soit
croquant.
Bien fondant. Exactement.
Il reste croquant.
Evelyne,
c'est délicieux. C'est fin. C'est très fin. Le poisson, il est cuit à merveille.
Et puis, c'est très facile à cuire. Pour le coup, souvent, on s'en fait toute une idée, une montagne de cuire du poisson à la maison. Mais là,
mais ça, je suis tout à fait d'accord.
C'est au four, 160 degrés, 8 minutes. Oui. Et voilà.
Pas plus. C'est vrai que ça peut faire peur quand on dit c'est en cours. Mais écoutez bien, chers auditeurs, c'est important de respecter ces temps de cuisson très courts pour le poisson. Comme le dit souvent Jean-François Piège, ça cuit de peur souvent le poisson. Donc, il ne faut pas aller vers la surcuisson. Il y a toujours une inertie de la chaleur qui va continuer un petit peu à le cuire, ce poisson.
Oui, c'est pour ça que je préfère le cuire au four plutôt qu'à la poêle. J'aime pas agresser le poisson. Je préfère le faire tout doucement et comme ça, il est plus fondant.
On n'aime pas
Le blanc,
exactement.
Il était bien, le blanc.
Le blanc, oui. Qu'est-ce qu'on buvait On a tout bu, mais qu'est-ce que c'était? C'était
moi
bon.
Avec on a tout bu. Vous avez tout bu.
Oui, pardon, moi j'ai bu. Vous êtes au rouge, vous êtes passé au rouge.
Mais
attention.
Alors, est-ce que c'est un crime de boire du vin rouge avec le poisson?
Ah, non.
Alors,
non,
moi, je ne suis pas une grande spécialiste, mais je pense que non.
Mais non.
Je vais vous expliquer. Moi, je vous avais servi effectivement un Saint-Véran de chez Damien Martin. Parce que... Pour une sauce au beurre blanc, moi j'aime bien les beaux bourgognes blancs qui sont comme ça charnus. Je parle peu souvent d'élevage sous bois, mais là effectivement le bois apporte un côté très beurré dans les chardonnays bourguignons qui leur va très bien. Mais si vous voulez être en rouge, vous pouvez bien sûr. La seule chose, c'est un peu comme ce que je disais avec les champignons, c'est d'éviter les rouges très tanniques
parce que
la rencontre des tanins et du poisson donne des sensations métalliques qui ne sont pas agréables ni pour le poisson ni pour le vin. Mais si vous êtes sur un vin comme celui-ci, je ne dirai pas ce que c'est, il va falloir écouter ma chronique.
Dans un instant.
Eh bien là, ça marche. Ça marche aussi.
Ça marche très très bien.
Surtout avec le miso.
On dirait un pinot noir à la couleur et au goût, mais je ne sais pas. On va le découvrir avec votre chronique. Ben, merci Pauline Séné d'être venue cuisiner ce poisson pour nous.
C'est
et on vous
délicieux.
Retrouve un lundi à la Machine du Moulin dans le 18e arrondissement de Paris au festival Chef au féminin et au pluriel. C'est un festival qui est organisé par l'association Ernest. On pourra goûter la cuisine des chefs comme Cybèle Edlo qui est venue à notre table, Ophélie aussi.
Oui, et en plus c'est l'occasion de faire une bonne action parce que les bénéfices de la vente des 800 places vont financer la distribution de légumes qui seront produits, je crois, en circuit court et qui seront distribués à des familles en situation de précarité.
Eh bien voilà, c'est parfait ça. Merci Pauline Séné d'être venue.
Merci
et on vous retrouve à l'hôtel Royal Madeleine dans une semaine.
Très vite, Pauline.
C'était une avant-première du goût. Et à très vite.
Ouais, et merci Rubin. Pour ce magnifique
merci
poisson. Beaucoup.
Merci,
et
je veux bien une deuxième assiette. S'il
et
vous
on retrouvera la recette sur europe1.fr pour que vous puissiez la refaire ce week-end, chers auditeurs. Vous le savez, on vous offre une cave à vin de marque française Climadif. 18 bouteilles, idéale pour mettre à parfaite température de dégustation vos bouteilles. Elle est ultra silencieuse. Cette cave à vin, il faut reconnaître et découvrir un bruit de cuisine, eh bien on l'écoute ce bruit de cuisine.
Je peux boire.
Et nous avons Claire avec nous au téléphone. Bonjour Claire.
Bonjour Laurent et les bons vivants. Bonjour Evelyne aussi.
Ah,
bonjour
elle
Claire.
Est là Evelyne.
La bonne vivante, la bonne vivante.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie Claire?
Ah, je suis comédienne, mais en ce moment j'écris.
Vous écrivez, c'est important. Voilà, ouais. Vous écrivez des rôles pour vous, comme ça, c'est comme ça qu'on peut souvent jouer quand on est comédien. Mais c'est vrai. Quel est ce bruit de cuisine selon vous, Claire?
Alors, je pense qu'on fait saisir et qu'on braise. Alors, je pensais à rissoler.
Ah, rissoler. Ah, il s'agit d'un mode de cuisson, on a eu le mot que c'est pas ça. Non, c'est un mode de cuisson qu'on a été très nombreux à pratiquer ces dernières semaines, si je puis dire. Mais ce n'est pas le braisage ni le rissolage. Merci Claire en tout cas. Et on va tenter votre chance et on vous embrasse. Bon week-end Claire.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Elle a fini tout le lieu jaune avec beurre blanc à la pâte de miso fermentée réalisée par Pauline Séné qui était avec nous pour le plat du jour. C'est Evelyne Delia, notre invitée. Tout se passe bien, Evelyne?
Tout se passe super bien.
Le blanc est à température?
Tout à fait. Ah ben le blanc, il faut qu'il soit un petit peu frais tout de même.
Oui. Il était très froid quand je vous l'ai servi. Je vous l'ai servi un peu en avance pour qu'il remonte en température, même si certains ont commencé à le boire un peu froid.
C'est vrai, mais il était très bien, votre blanc, cher Ophélie. On va vous entendre dans un instant pour nous parler d'un rouge.
Du rouge.
Justement. Alors, Evelyne Delia est des nôtres. Quand vous présentez la météo, Evelyne, vous faites très attention, j'ai remarqué, dans le choix des mots, dans le choix du vocabulaire.
Oui.
Et moi, je vous regarde souvent et vous ne dites jamais, vous ne parlez jamais de beau temps.
Mais non. Ben non, parce que le beau temps pour certains ne l'est pas du tout pour d'autres. Et justement, pour le milieu de l'agriculture, hein, puisqu'on parle de cuisine, moi je l'ai vécu cet été, au mois d'août, j'ai travaillé, et Dieu sait si cette canicule a été violente et sur quasiment tout le territoire. Et donc évidemment, pour les vacanciers, pour les hôteliers, c'est du beau temps. Mais le soleil, mais c'est une catastrophe pour les maraîchers, même pour les éleveurs aussi, hein, pour avoir du fourrage pour les bêtes.
Ils ont dû taper dans leur stock de fourrage. Donc les champs étaient les prairies étaient des paillassons. Hein.
Exactement. Donc d'autant plus qu'on pouvait pas arroser avec la sécheresse. Donc ce qui accentue encore plus le problème. Donc ça veut dire que il y a du soleil. Oui, pour moi il y a du soleil ou il y a de la pluie, mais c'est pas du beau temps. Forcément.
Alors, il y a une vidéo justement à propos de cet été, de la sécheresse qui a fait le buzz cet été. En 2014, je me rappelle, vous aviez présenté un bulletin météo fictif pour l'année 2050, hein, où les températures étaient extrêmement élevées dans ce bulletin fictif.
Oui.
Et la science-fiction, si je puis dire, nous a rattrapés parce que ces températures, elles ont été atteintes en 2019.
Et absolument, c'est-à-dire que cette science-fiction a été complètement... démoli, bouleversé. On a. Alors, c'est vrai que quand j'ai préparé ce bulletin pour 2050, c'était au moment de la COP21. Moi, je me suis dit, attendez, 40 degrés à Paris, 43 à Nîmes. Et en fait, en juillet 2019, 42,6 degrés à Paris, record absolu. 46 degrés en juin 2019 à Vérargues, dans l'Hérault, record absolu. Il n'avait jamais fait aussi chaud en France. Cet été, 40 degrés. En Bretagne, 40 degrés à Brest. Donc là, on a pulvérisé les prévisions pour 2050, ce qui est quand même très inquiétant.
Avec des phénomènes de plus en plus extrêmes, on le voit
Absolument.
Encore cette semaine avec Yann en Floride, aux États-Unis.
Exactement. Alors bon, bah, des cyclones, on en a toujours connu. Des tempêtes, on en a toujours connu. Mais ces phénomènes sont de plus en plus violents.
Et rapprochés.
Cet été, la température de la Méditerranée, entre 28 et 30 degrés.
Donc, c'est trop chaud.
Ah ben évidemment.
Et on le voit, les poissons d'ailleurs.
Et même pour la pêche.
Hein. Oui, bien sûr.
Parce que moi, je discutais beaucoup avec les pêcheurs qui me disaient, mais on ne sait plus où sont les bancs de poissons. Parce que là, ils disparaissent beaucoup plus en profondeur parce que les eaux sont trop chaudes.
Bien entendu. Alors, on va rester dans une ambiance liquide, mais pas aquatique. On va changer de couleur.
Quelle
on va passer au rouge.
Incroyable.
Avec vous, chère Ophélie, vous avez envie de nous parler d'un rouge. Mais pourquoi la couleur est si importante, hein? Parce qu'on n'arrête pas de blaguer sur ça, mais racontez-nous.
Vous le voyez, hein, vous l'avez dans votre verre, il est pâle, hein, ce rouge-là.
C'est vrai.
Et j'avais envie d'en parler parce que c'est une bizarrerie géographique, comme je les aime, mais c'est aussi une jolie histoire de retour en grâce. Normalement, il y a une règle dans le vin rouge, quand il est pâle, translucide, comme ici, c'est-à-dire qu'on peut apercevoir nos doigts au travers du verre, on considère qu'il vient du nord de la France. On peut le parier. Un pinot noir, par exemple, qui vient d'Alsace, de Bourgogne, de Champagne même, hein, comme les méconnus vins rouges de Bouzy, je crois que vous les aimez beaucoup.
Légèrement pétillant.
C'est bon, ça.
On n'en trouve quasiment plus. Et puis c'est devenu
très rare.
Et comme le rosé d'Hérissé aussi, qu'on trouve là-bas en Champagne.
Ah, oui.
Très rare.
Alors, vous nous parlez d'une exception, là.
Eh bien sûr, j'aime bien ça, les exceptions. Ça, c'est le Siacarelle. Siacarellou, mais Siacarelle.
Ça sent la Corse, ça.
Exactement, c'est un raisin du sud de l'île de Beauté. Il a la peau fine, alors qu'il est en pleine Méditerranée. Et ça le rend très fragile, mais aussi très attachant, très fascinant pour moi. Je l'adore. Il a des arômes très intenses de violette, d'épices, de fruits un peu. Oui. C'est très particulier. Mais en même temps, il a une bouche très fine, très peu tannique. Et puis enfin, c'est un mal-aimé dont on découvre enfin les vertus.
Pourquoi mal-aimé? À cause de la couleur, toujours, non?
Eh oui.
Ah bon?
Trop pâle pour être honnête.
Pour être corse, pour être corse.
Trop pâle, non. Pensait-on dans les années 90. Ça n'est pas du vrai vin rouge, disait-on aux vignerons du coin. Alors, il faisait du rosé, il le mélangeait à d'autres cépages. Pour reprendre les mots de Gilles Serouin, un vigneron qui est très respecté, qui est à Sartène, le Siacarelle, on en avait honte.
Comment sa réputation a changé alors?
Le goût des consommateurs, tout simplement, qui a évolué. Après des décennies à chercher des vins puissants, concentrés, les amateurs de vin recherchent désormais la finesse, la pureté du fruit, la fraîcheur, trois qualités qu'on retrouve ici. Référence absolue, il a quelque chose de bourguignon jusque dans son potentiel de vieillissement qu'on découvre. Résultat, les vignerons enfin en sont fiers et ils le mettent en avant.
Référence de celui-ci qu'on retrouvera sur europe1.fr.
Gilles Serouin, dont je parlais à Sartène, c'est le domaine Saint-Armetou et c'est la cuvée Rose Marine, Rosou Marinou. 14 euros fournis par les Caves Taïwan. Et regardez, c'est une merveille.
C'est bien, c'est pas le prix du Bourgogne.
Eh ben, non. Merci.
Et ce sont des vins qu'on peut garder quand même?
Absolument. Ils vieillissent 10-12 ans et après, en fait, ils n'évoluent plus comme les Bourgognes. En fait. Ils ont un beau potentiel.
Eh bien, merci pour cette belle sélection, Ophélie Neyman. Et on vous retrouve évidemment dans les pages du journal Le Monde. Attention, Evelyne, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants.
Bon.
Alors, quel est le goût de votre enfance, Evelyne?
Ah, le goût de mon enfance, c'était les soufflets au fromage que faisait ma maman. Et ça, c'est un souvenir aussi bien gustatif que visuel. Parce que j'ai le souvenir de voir à travers le four...
C'est spectaculaire.
C'est spectaculaire. Le soufflet qui montait progressivement. Et puis après, cette finesse. Parce que finalement, c'est du fromage. Bon, mais la finesse, elle avait l'art de rendre ce soufflet majestueux.
Votre plus beau repas, Evelyne?
Ah ben, les plus beaux repas, c'est, je les mets au pluriel parce que ce sont toujours les repas de Noël. Les repas en famille. Alors, c'était très traditionnel parce qu'on avait toujours exactement le même menu d'année en année, mais c'était festif.
Une volaille?
Eh ben c'était...
Pas forcément.
Si, il y avait la pintade, mais avant il y avait les huîtres avec le boudin blanc truffé.
Ah, ça, ah c'est oui. Bon, ça, le boudin
huîtres,
blanc.
Huîtres, boudin blanc truffé. Après il y avait une petite tranche de foie gras. Après il y avait la pintade que maman faisait ça fabuleusement. Et puis elle faisait souvent une purée du moment. Et puis, après, il y avait les fromages et puis les bûches.
Les
bûches.
Fromages et desserts, bien
et
entendu. Desserts
et la bûche de Noël.
Qu'est-ce qu'on trouve toujours dans votre frigo, Evelyne Delia?
Alors, des laitages, mais alors, je suis passée des yaourts au fromage blanc, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup plus de calcium dans le fromage blanc. Et les fromages blancs, pour moi, c'est chèvre ou brebis. Je ne suis pas lait, je n'aime pas boire le lait, mais
les Et à propos laitages... des hormones de croissance, je fais une parenthèse parce que vous êtes marraine de Ruban Rose oui. Ce week-end à propos du dépistage du cancer du sein. Et il y a peu d'hormones de croissance dans ces laits-là, la chèvre et la brebis, et c'est plus indiqué pour les femmes justement de consommer ces yaourts.
Hein, ouais. Parce qu'avant, on n'y pensait pas, on n'en trouvait pratiquement pas dans le commerce. Et là, maintenant, je pense que de plus en plus de gens... abandonne un petit peu le lait, et surtout pour les laitages, pour la chèvre et la brebis.
Et le mot de la fin, FIM?
Je ne sais pas grignoter, mais j'adore les bons plats et je ne sais pas sauter un repas.
Eh bien voilà, ben nous ne sautons pas de repas et on n'a pas sauté de repas parce qu'on a peut-être un petit dessert qui traîne quelque part.
Wow.
Loïc Vimard, il ne nous aurait pas fait une petite tarte, notre réalisateur, pour le dessert, une belle petite tarte aux pralines roses. Mais si, ben on va aller la chercher, la tarte aux pralines
roses.
Merci Evelyne.
C'était un grand plaisir.
Partagé. Merci infiniment d'être venu à la table des bons vivants et on vous
Merci
retrouve
Laurent.
Évidemment du lundi au jeudi sur TF1 à la météo et sur LCI, bien entendu.
Absolument.
Et dans les journaux, hein, qui était une grande idée, notre camarade Jean-Pierre Pernaud.
Oui, bien évidemment. Bien évidemment.
Merci Evelyne.
Merci Laurent.
Merci, merci. Infiniment. Merci,
merci
la bande.
À tous.
On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, au Studio Coluche sur Europe 1. Et vous retrouverez les références évidemment sur Europe 1.fr. Bonne cuisine et bon week-end sur Europe 1.